Chers frères et sœurs, l'objet de la parabole est clair. La nécessité de toujours prier sans se décourager. Ah, donc nous sommes tentés par le découragement. Il y a un vrai combat dans la prière, de demande en particulier. Et alors, j'aimerais porter mon attention sur trois éléments dans ce passage d'évangile. La première, c'est que la prière est un lieu de purification. La deuxième, c'est que la prière est un lieu de croissance de notre foi et de notre confiance en Dieu. Et la troisième, que la prière, c'est un lieu de collaboration avec Dieu. Donc d'abord, la prière comme lieu de purification. Alors, dans l'évangile, Jésus dit, est-ce que Dieu fait attendre ceux qui s'adressent à lui dans la prière? On serait tenté de dire à certains moments, oui, il nous fait quand même beaucoup attendre. Mais peut-être que notre temps et celui de Dieu n'est pas exactement le même. Et Dieu agit en profondeur de manière plus invisible, qui échappe à nos mesures dans bien des circonstances. Alors on aimerait être exaucé tout de suite, hein, comme un enfant qui veut quelque chose. Et alors justement, ce temps, cette attente, ça aide à purifier nos désirs. Comme disait saint François de Sales, Dieu ne refuse jamais la prière, mais il l'exauce à sa manière. Alors nous, du coup, cette purification, c'est d'entrer dans la manière de Dieu qui n'est pas forcément la nôtre. Peut-être connaissez-vous aussi cette parole de Lewis, hein, qui dit que la prière de demande peut nous apprendre à nous passer de ce que nous voulions. Ça veut dire que dans cette prière de demande et dans la durée, justement, ben, il y a quelque chose qui bouge en nous. C'est pas Dieu qui doit changer, c'est nous qui changeons dans la prière. Et Dieu, justement, nous travaille. Si on fait des neuvaines aussi, si pour avoir le temps de bouger et pas simplement faire une prière instantanée et puis voilà, action-réaction, non. Ce temps est nécessaire parce qu'on a besoin de temps pour changer, pour évoluer, pour voir les choses peut-être de manière un petit peu différente. Alors oui, encore une citation de Lewis. La prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie. Et parfois, en demandant quelque chose, nous apprenons peu à peu à nous en passer parce que Dieu nous conduit à vouloir autre chose lui-même. C'est important que finalement, au lieu de s'accrocher à quelque chose, ça nous renvoie à Dieu lui-même. Au lieu de vouloir quelque chose, c'est quelqu'un, au bout du compte, que nous sommes appelés à rencontrer. Alors on voit que ce premier bénéfice, on pourrait dire, mais qui nous est douloureux quelquefois, du temps où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est ça nous permet de nous décrisper en quelque sorte sur l'objet de notre demande pour finalement nous ouvrir à ce que Dieu désire nous donner. Alors ça, c'est tout ce moment qui n'est pas toujours très confortable pour nous. Et on est tenté donc de se décourager. Et Jésus nous dit non, il donne cette parabole pour montrer la nécessité de toujours prier sans se décourager. Le deuxième point, c'est que la prière de demande, en particulier, c'est un lieu de croissance de notre foi et de notre confiance en Dieu. À vous, vers la fin de la dernière phrase de ce passage évangile, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc il y a un enjeu de foi dans la prière de demande. Est-ce que finalement je garde ma foi jusqu'à la fin, ou finalement Dieu, et c'est ce qui arrive souvent quand on évangélise dans la rue, des gens qui s'éloignent de Dieu, bon, il ne m'a pas exaucé, j'ai prié pour que ma grand-mère reste en vie et puis elle est décédée, donc j'abandonne la prière. Alors, il peut y avoir des choses très douloureuses, hein, mais en même temps, est-ce que je garde la foi même si Dieu répond pas comme je l'avais imaginé? Donc c'est la prière et la durée dans la prière, c'est pour un approfondissement dans la confiance que Dieu agit de manière mystérieuse, mais il agit. Dieu n'est pas à notre botte, on le commande et puis il nous obéit. Non, alors on ne comprend pas forcément la manière dont Dieu agit, mais Dieu agit et nous sommes appelés à lui faire confiance. Dieu est assez grand pour agir à sa manière. Alors, on est quelquefois un peu comme Sarai, la femme d'Abraham, c'est avant qu'il soit appelé Abraham. Vous vous rappelez, au chapitre 16 de la Genèse, il y a ce moment un peu délicat. Ils attendent une descendance, Abraham et Sarai, et puis ça ne vient pas. Alors, Sarai, à un moment, elle trouve que le temps long, elle dit... alors, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante. Grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » Et Abraham, cette fois-ci, écouta Sarai. Il aurait peut-être mieux fait de ne pas l'écouter cette fois-là. Mais voilà. Donc, quelquefois, on trouve ça long. On trouve une... Mais finalement, non, ce n'était pas par... Dieu suivait son idée. C'est Isaac. Ça ne sera pas Ismaël. Alors, c'est la tentation dans cette période où nous sommes appelés à approfondir notre foi, notre confiance. On le voit dans certains passages aussi, la cananéenne, par exemple, dans Saint Matthieu, où on pourrait reprendre cette parole de Jacob, « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni, mais béni à ta manière. » Et alors, il y a peut-être deux critères qui peuvent nous guider. Est-ce que finalement, dans ce chemin, est-ce que je suis toujours dans la voie de la confiance et de la foi ou est-ce que finalement, je reprends mes billes et puis je vais me débrouiller tout seul parce que je pense que finalement, Dieu ne s'occupe peut-être pas beaucoup de moi. Premier critère, c'est est-ce que je continue à prier ? Est-ce que je consacre du temps à la prière de demande ? Si je consacre plus de temps à la prière de demande, c'est que peut-être finalement, je vais me débrouiller tout seul et puis je dis, bon... Et c'est le psaume du jour est très beau. Hein. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il ? Et je continue à croire que le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Voilà. Ça peut être un premier critère. Si je prends plus de temps pour prier, c'est que finalement, ma foi en Dieu est plutôt sur la pente descendante. Un deuxième critère, c'est est-ce que je suis angoissé par rapport aux résultats ? Alors, là encore, j'ai bien conscience que ça peut toucher des points douloureux, hein, parce que il y a des prières de demande qui ont pris pour un enfant malade ou ont pris pour... bien sûr que c'est une intention tout à fait légitime, etc. Mais est-ce que je me remets au bout du compte à la providence qui agira à sa manière ? Est-ce que je vais être dans la maîtrise ? Ou est-ce que j'accepte de me décrisper, comme je disais tout à l'heure, pour remettre les choses entre les mains de Dieu ? Ça peut être deux critères qui me disent si j'avance dans la voie de la confiance ou si au contraire je n'y avance pas. Un troisième point que je voulais développer rapidement encore ce matin, vous connaissez peut-être l'adage, alors la formulation peut changer un petit peu, mais c'est à propos de la prière comme lieu de collaboration avec Dieu. Alors, quelquefois, on attribue ça à Saint Ignace de Loyola. Prier comme si tout dépendait de Dieu, agir comme si tout dépendait de moi. Alors, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, c'est et l'un et l'autre. Ce qui est important, c'est que la prière ne nous dispense pas d'agir. Mais agir ne doit pas nous... Ça ne doit pas être motivé par une incrédulité, une forme d'incrédulité, puisque Dieu ne fait rien, je me relève les manches. Donc, vous voyez, c'est vraiment les deux. Et je pense que ça, on est au cœur aussi de la prière de demande, qui est un lieu où Dieu veut faire les choses avec nous. Ce n'est pas ou lui ou nous, mais avec nous. Et pour ça, la première lecture est une illustration merveilleuse. Vous vous rappelez, il y a le combat contre les Amalécites et il y a en même temps il y a Josué qui va combattre dans la plaine, donc avec des vraies armes et puis il y a du vrai sang qui coule, voilà. Et en même temps, Moïse est sur la montagne avec les bras en signe de croix, on va dire. Et quand ses bras baissent, hein, vous connaissez, ça matérialise bien le... du coup, c'est les Amalécites qui gagnent. Quand il relève, c'est Josué qui gagne. Mais ça illustre bien les deux. Alors, les Amalécites ne voyaient pas Moïse sur la montagne, mais ils pouvaient se poser la question, mais pourquoi à certains moments, c'est nous qu'on y arrive, et à certains moments, ça se renverse. Mais quelque part, la prière, c'est vraiment un lieu où on apprend à vivre avec Dieu. Il y a comme une tension entre les deux. Il faut, encore une fois, il faut et l'un et l'autre. Prier comme si tout dépendait de Dieu, et je le crois que ça dépend de Dieu. Mais en même temps, j'agis parce que Dieu ne me déresponsabilise pas, il ne me dit pas, bon, t'as rien à faire, reste sur ton lit. Hein, donc c'est vraiment le lieu d'une relation, cette prière. Hein. Comme dit saint Paul, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et alors, du coup, dans cette collaboration, on est à notre place, on n'est pas Dieu. Et ça nous guérit peut-être d'une forme d'orgueil ou de prétention de vouloir mener les choses, d'imposer notre volonté. Mais il y a une vraie synergie entre la grâce de Dieu et notre liberté. Voilà, alors, c'est quelques mots ce matin à partir de ce passage d'évangile qui nous est donné pour ne pas nous décourager. Dans la prière, il faut prier sans se décourager, et c'est un vrai combat. C'est pas gagné d'avance parce que voilà, la confiance n'est pas gagnée une fois pour toutes. Il y a besoin de retravailler ça. S'abandonner entre les mains de Dieu, c'est pas gagné une fois pour toutes. Mais en même temps, c'est le chemin d'une communion profonde, intime avec Dieu. Alors demandons à Marie, qui l'a vécu à la perfection, demandons à Marie de nous y aider. Amen.